Durant toute la période de confinement et la crise sanitaire, RCN n'a pas baissé les bras, ni minimisé ses efforts et présence d'antenne. Votre radio a été à votre écoute pour apporter chaque jour un relais direct à la cellule de crise. Pour que ces actions restent pérennes, RCN a besoin de vous. Envoyez dès à présent votre don à RCN, 5 Place Masséna, 06 000 Nice. Un reçu CERFA vous sera délivré en retour. Ensemble, aujourd'hui, soutenons Radio Shalom Nitzan.
La Mèche d'âme sur RCN. Pérenniser la mémoire des enfants juifs déportés des Alpes-Maritimes. La Mèche d'âme avec Michel Mérovka, Jacques Lefebvre-Linetsky et Cathy Fiedler.
Bonjour, bonjour Cathy.
Bonjour Jacques.
Alors c'est Jacques Lefebvre-Linetsky et Cathy Fiedler au poste aujourd'hui. Pour une actualité riche, nous avons donc le plaisir, l'honneur et la joie de recevoir Alain Kleinman. Enfin, de recevoir, il a accepté un entretien téléphonique et il a une actualité très, très, très riche puisqu'il a une exposition en cours, il a participé à un colloque dimanche 13 et il a un nouveau site. Alors nous allons aborder tout cela dans le cadre d'un entretien qui portera essentiellement sur la mémoire. Donc dans le cadre de cette émission, au nom des enfants, qui est diffusée sur Radio Shalom 89.3, que vous pourrez écouter en direct, que vous pouvez écouter en direct et en numérique, de sorte que nos auditeurs ont la possibilité de la réécouter et de la podcaster. Alors vraiment, c'est une joie de recevoir Alain Kleinman. Sa générosité, sa chaleur sont bien connues de nous. Et quelques mots de présentation pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas son travail. Alors j'envie celles et ceux qui ne connaissent pas son travail, parce que la joie de la découverte, c'est quelque chose d'essentiel en art. Alors je vous invite d'emblée à vous rendre sur le nouveau site d'Alain Kleinman. Alors c'est Alain Kleinman tout attaché man avec deux n .com. Donc c'est facile.
On peut peut-être dire bonjour à Alain Kleinman.
Ah ouais.
Et lui souhaiter la bienvenue sur notre antenne.
Ah ouais, ouais. Eh ben, bonjour Cathy, bonjour Jacques, je suis ravi d'être avec vous.
Bonjour Alain. Alors, c'était une forme déguisée de bonjour, hein, tout ça. Alors Alain, vous êtes peintre, sculpteur, collagiste, dessinateur. Votre atelier se situe à Paris, c'est là que vous travaillez. Vous aimez les mathématiques, la philosophie, vous aimez l'écriture. La peinture chez vous n'est-elle pas une forme d'écriture? Vous aimez vous rendre aux puces afin de chiner des photos et des objets qui appartiennent à un passé révolu. Vous êtes un adepte des arts martiaux, vous êtes né un 18 juin, donc vous êtes proche de la perfection.
Jacques dit ça parce qu'il est également né un 18 juin, et qu'il est féru d'arts martiaux. Il faut expliquer pour nos auditeurs.
Et certains ont même essayé de faire un discours d'occasion.
Vous êtes un arpenteur du passé dont l'art est ancré dans le présent. Vous affectionnez les grands formats, presque des formats immenses. Vous aimez le sépia, vous aimez le blanc. Vous façonnez vos toiles à la manière d'un orfèvre ou d'un enlumineur. J'aime bien cette idée de l'enlumineur. Vous faites surgir la lumière des ténèbres. De nombreuses monographies et un énorme volume paru chez Somogyi, 700 pages, il pèse des tonnes, nous permettent de voir et de revoir les images que vous confectionnez au fil des années. Vous avez exposé vos travaux dans le monde entier, plus de 200 expositions à votre actif, et votre œuvre a été mise en scène au théâtre, notamment à La Havane. Votre capacité de production est impressionnante. Alors, on dit souvent de vous que vous êtes le peintre de la mémoire, ou le peintre des mémoires, puisque l'exposition qui a lieu au Centre européen du judaïsme comporte un pluriel. Le travail de l'historien sur la mémoire n'est pas le même que celui ou celle du témoin. les recherches du sociologue sont différentes de celles du philosophe. Et que dire de cette archéologie de la mémoire que scrute le psychanalyste? Donc, je le disais, vous venez de participer à une table ronde dont le sujet est le suivant. Mémoire, transmission, création, art, psychanalyse, pensée juive, tout cela en marge d'une exposition intitulée « Mémoire au Centre européen du judaïsme ».
À Paris, hélas.
Et c'est la raison
pour laquelle nous avons envie de vous questionner aujourd'hui,
oui,
pour vous amener un petit peu à Nice.
Nous recommanderons donc à nos auditeurs de se rendre sur votre site qui est tout nouveau et fort riche. Alors, ma première question portera sur votre rapport intime avec la mémoire. Quelles traces de mémoire conservez-vous de votre histoire familiale? Et ces traces ou non-traces ont-elles nourri votre œuvre?
Alors, je suis issu d'une famille ashkénaze, donc qui comme la plupart, ont migré de pays en pays, ont eu beaucoup de difficultés pendant la dernière guerre à transporter les lourds albums de famille et leurs photos. Et en fait, j'ai très peu de vrais documents de famille donc qui pourraient servir d'assises à une mémoire personnelle. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je me suis senti comme le devoir de repeupler de manière imaginaire tous ces albums qui m'avaient manqué. Je ne pense pas que ça m'appartienne uniquement, bien sûr, c'est quelque chose de générationnel pour des personnes qui ont, dont l'histoire familiale ressemble à la mienne. Et donc j'imagine que sont les motifs intérieurs pour lesquels j'étais amené à travailler sur cette thématique de mémoire. Maintenant, je suis obligé quand même de faire un bémol, qui est le fait que ce que dit un peintre, finalement, c'est d'abord le vocabulaire de la peinture elle-même, c'est-à-dire des formes, des matières, des couleurs, avant d'être une thématique ou l'idée de représenter ou d'avoir un discours sur un mot comme celui de mémoire. Ça, Jacques, vous le savez parfaitement parce que vous avez aussi une très belle œuvre picturale. Et donc il y a toujours une sorte de distorsion entre le titre, qui est une forme de caricature quand même de ce qu'est l'œuvre, et l'œuvre elle-même, avec les impératifs de la peinture et les recherches strictement encore une fois dans les matières et les couleurs qui sont la spécificité de ce langage. Donc le mot mémoire n'est pas exactement le travail en peinture lié à la mémoire, mais enfin la peinture en étant un langage spécifique permet peut-être une approche un peu différente de ça, une approche sensible, une approche peut-être plus ouverte en termes d'énoncer, c'est-à-dire que c'est un écran de projection sur lequel les spectateurs peuvent projeter leurs propres sentiments, leur propre mémoire, par exemple. Donc la peinture permet ça, et j'essaie que cette mémoire, évidemment, comme chacun, j'ai une mémoire spécifique, personnelle et familiale, mais je veille toujours à ce qu'il y ait quelque chose d'un peu générique, de manière à ce que chacun puisse avoir le sentiment de retrouver un arrière-grand-père imaginaire, un parcours un peu abstrait, enfin, voilà.
Et face à une peinture, on est dans l'immédiat. Il n'y a pas de distance, en fait, par rapport à un concept plus intellectuel, une recherche plus intellectuelle de ce qu'est la mémoire. Alors, vous dites souvent que vous êtes devenu peintre à l'âge de 7 ans. Alors, quel souvenir gardez-vous de cette première découverte de la peinture à l'huile?
Alors, je ne peux pas dire que je sois devenu peintre à 7 ans. Je ne suis même pas sûr d'être peintre aujourd'hui, 60 ans après. Mais tous les enfants peignent et dessinent naturellement. Moi, j'ai eu la chance à 7 ans que mes parents m'offrent un vrai matériel de peintre, c'est-à-dire des toiles, des peintures à l'huile, un chevalet, et donc j'ai jamais cessé de peindre, et c'est devenu une sorte de langage de plus en plus profond, de plus en plus précis, et qui me semblait plus naturel finalement que le langage usuel des mots, c'est-à-dire j'arrivais à parler de choses un peu indicibles, un peu subtiles que les mots ne me permettaient pas nécessairement d'atteindre. Et en fait, donc j'ai continué ce parcours, c'est devenu évidemment de plus en plus important. Il y a un moment où ça s'est développé de manière à ce que effectivement ça devienne mon activité majeure. Et donc, sans le faire exprès, je suis effectivement devenu peintre.
Oui, mais vous êtes... Pardon.
Le sentiment... À vrai dire, je me souviens très bien de cette première petite toile. Et mon père, je me souviens, s'était assis à côté de moi. Et pour m'encourager, il avait fait aussi une toile à l'huile, ce qui était ça devait être la première fois de sa vie. Mais enfin, c'est une sorte de moment charnière et émotionnellement très, très puissant comme souvenir dans ma vie.
Voilà, c'est pour ça que je voulais vous poser la question par rapport au thème de la mémoire. Alors, vous étiez un enfant précoce, et à 18 ans, c'est votre toute première exposition.
Oui, oui.
Je suppose que c'est un bon souvenir.
Formidable. Et ça m'a permis très jeune de prendre certaines décisions, c'est-à-dire que là. Alors le premier sentiment, j'ai fait comme un peintre, c'est-à-dire j'avais installé dans un très beau lieu qu'avait un ami de mon père justement qui était collectionneur de peinture, et il avait vu mon travail et il avait proposé à mon père de, si je lui offrais une toile, de m'organiser toute une expo. Donc j'avais fait comme un peintre, j'avais mis des cadres, exposé des choses sur les murs, fait une liste de toiles, etc. Et d'un seul coup, j'ai une sorte de sentiment très ambigu d'impudeur, en fait, de montrer des choses intimes. Bon, c'est une peinture de fin d'adolescence, donc effectivement qui est pas destinée à être exhibée. Et donc il y a eu ça, et la première personne, bizarrement c'est une expo qui s'est très bien passée du point de vue des ventes d'étoiles, c'est-à-dire je crois qu'on a à peu près tout vendu, mais la première personne qui m'a fait un chèque en me disant je voudrais cette toile, j'aurais voulu être 10 pieds sous terre, c'est-à-dire j'avais absolument honte de prendre de l'argent contre un objet intérieur, si on peut dire. Mmh. Et ça m'a très vite obligé à prendre des décisions. C'est-à-dire, je me suis dit, soit j'accepte ça et je peux continuer de peindre autant que je veux, ou bien je garde tout pour moi et je serai un peintre du dimanche qui trouvera quelques heures par-ci par-là pour continuer de faire ce qui lui plaît. Et donc ça a été une zone de maturation très très rapide. J'ai pris évidemment la décision de montrer les choses, de m'en séparer, et finalement ça a été aussi un point charnière de ma relation avec ce travail-là.
Et vous aimez citer le grand écrivain américain Philip Roth, qui disait: si l'homme n'est pas fait de mémoire, il n'est rien. Alors comment travaille-t-on le matériau mémoire? Quels sont les outils à votre disposition, vos outils de prédilection en tant que peintre, sculpteur, bricoleur de génie?
À vrai dire, après un certain nombre d'années de travail, je me suis rendu compte que tout pouvait parler, tout était un signe de langage en peinture, et j'ai commencé de manière très classique avec de l'huile sur toile, sans oser même maroufler un petit morceau de papier ou des choses comme ça, et puis d'un seul coup je me suis dit, après tout, pourquoi pas, essayons. Alors ça a l'air très simple à énoncer comme ça, mais intérieurement c'est une sorte de déchirure très compliquée, très profonde, enfin un effort qui me semblait surhumain. Et maintenant, je me rends compte que finalement, un petit mégot dans le caniveau avec le reflet d'un rayon de soleil dessus peut devenir un objet extraordinaire et qu'on peut lui attribuer tout un parcours, toute une vie, toute une dimension. Enfin, ça peut devenir un formidable écran de sensibilité, de projection, de sentiments internes. Et j'ai commencé à comprendre que beaucoup d'objets qui semblaient abandonnés dans des marchés aux puces et des antiquaires, dans une poubelle au coin de la rue, finalement parlaient aussi de leur vie, de leur vécu, de ceux qui les ont manipulés. Et assez naturellement, la jonction s'est faite, en fait, et donc des matériaux traditionnels disons des arts plastiques, comme la peinture, le dessin, la sculpture, les lavis, etc. J'ai pu me diriger vers l'adjonction de matériaux un peu exogènes à ces habitudes-là et qui venaient les enrichir. Et d'une certaine manière, c'est comme en français que pour un écrivain, quand il écrit depuis un dictionnaire intérieur le plus riche possible, à ce moment-là, évidemment, les phrases et le texte deviennent s'enrichissent de ça et deviennent plus précis, plus complexes. Et en peinture, j'ai compris qu'il s'agissait de la même chose. Donc je me suis autorisé à amener tout ce qui me semblait sous la main en termes de capacité de parole, et c'est devenu ce qu'est aujourd'hui mon travail.
Oui, ça implique une ouverture d'esprit constante, puisque vous travaillez le carton, et puis dans un entretien que vous avez donné récemment, vous parlez aussi du sucre.
Oui, oui, tout à fait.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette histoire de sucre?
Alors, j'ai commencé le travail sur le sucre, en fait, avec une exposition que j'ai eue au Musée National des Beaux-Arts à La Havane, à Cuba. Et en fait, j'avais fait tout un travail sur les escaliers de la vieille Havane, qui sont des lieux hallucinants, c'est-à-dire c'était une ville très très riche avec bon moment de Batista et quand Al Capone tenait la ville et puis tout ça avec les décennies dernières tombe en ruine sur pied et en fait on navigue dans cette espèce d'espace entre le très riche, le très pauvre, l'ancien, le contemporain, des architectures remarquables et des choses complètement délabrées. Et finalement, le sucre a cette rime, si on peut dire, avec les vieux murs abîmés, plein de salpêtre, de plâtrage qui tombe, de choses comme ça. Donc ça crée une sorte de matériau un peu bizarre qui raconte bien cette histoire de murs qui s'effondrent. Par ailleurs, c'est également une production locale cubaine. Les cannes à sucre sont un élément un peu important de l'agriculture cubaine. Et donc j'avais trouvé une technique qui se basait sur des angles de chine, des blancs acryliques, des poudres d'argent, des poudres d'or, mais aussi la poudre de sucre. Donc c'est une longue périphrase pour vous expliquer comment ce petit matériau simple de la vie ou de la table quotidienne peut aussi intervenir comme un élément visuel très spécifique et à vrai dire irremplaçable. C'est-à-dire que ce qu'on arrive à dire avec un peu de sucre, à ma connaissance, aucun tube de peinture ne pourrait le dire.
Oui, cette remarque ne manque pas de sel.
Oui. Bravo.
On va,
si
vous voulez bien, faire une petite pause musicale en écoutant un extrait de la ballade numéro 1 de Frédéric Chopin, interprété par Arthur Rubinstein. Voilà, nous sommes de retour avec vous, Alain Kleinmann, dans le cadre de l'émission.
C'est un morceau sublime.
Oui.
Oui, interprété par Rubinstein. En plus, c'est une sonorité lente et très spécifique. Enfin, là aussi, pour faire la jonction, on voit à quel point deux interprètes différents peuvent accorder à un même objet des éclairages qui n'ont rien à voir.
Oui. Donc, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Shalom sur 89.3, l'écoute de l'émission de la Mèche d'âme au nom des enfants, et nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir Alain Kleinmann. Alors, vous êtes sculpteur, installateur, et comme notre émission s'intitule « Au nom des enfants », il me semble essentiel d'aborder avec vous le motif du landau. C'est un motif récurrent qui fait naître une insondable émotion. Mémoire des enfants perdus, mémoire artistique. On ne peut pas voir un landau sans penser à celui que filma Eisenstein sur les escaliers d'Odessa, dans le cuirassé Potemkin. Qu'est-ce qui vous attire tant dans le landau ?
Pardon. En fait, je suis constamment à la recherche d'objets dont il me semble qu'ils puissent porter des traces de vie. Et ça, c'est un objet formidable, parce qu'il porte encore la déformation du petit bébé qui était dedans, trimballé et abrité par l'amour de sa mère, toute la relation au monde, c'est-à-dire il voit d'abord le ciel depuis son landau, et puis il aperçoit des choses autour. Enfin, c'est une sorte d'œuf fondateur de ce que va devenir la vie du bébé. Et en fait, je me suis dit, ces petits landaux du siècle passé ou plus, qu'on peut encore dénicher aux puces et qui devient comme un objet de rebut, finalement, quelque part, il continue de porter tout de même la trace de l'enfant qui a passé les premières heures de sa vie autour de ça. Et la plupart de ces landaux, d'abord, sont d'assez beaux objets. Aujourd'hui, c'est banalisé, c'est une espèce de coque en plastique, mais à l'époque, il y avait un ouvrage particulier qui était destiné, évidemment, à magnifier l'enfant qu'on mettait dedans. Et je me suis rendu compte qu'en mettant simplement quelques allusions à des souvenirs, à des vieilles photos, à des d'un seul coup, au lieu d'atterrir dans une poubelle, ce landau pouvait faire semblant de reprendre une forme de vie, donc une forme de mémoire, donc la trace finalement d'un moment d'existence de l'enfant et de ceux qui l'ont accompagné.
Je vous remercie. Cathy voudrait vous poser une question spécifique sur un autre objet.
Oui, même deux d'ailleurs, notamment sur la valise. Bien sûr, c'est un objet fascinant, chez vous, décliné en bronze ou mis en situation dans des installations qui ont une forte portée émotive. Et quelle est pour vous la signification symbolique ? Et ensuite, j'aimerais que vous envisagiez de répondre à la même question concernant les cages.
Oui.
Voilà. Est-ce que la mémoire peut être emprisonnée dans la valise ou dans une cage?
Bonne question. Il y a une relation entre les deux, c'est-à-dire les deux sont des contenants. Alors la valise, ça peut être les valises intérieures qu'on porte tous, ça peut être l'objet de voyage, dans le cas le plus tragique, sont les valises empilées que les gens avaient dans les camps et dont ils devaient se débarrasser immédiatement et qui portaient finalement les quelques objets qui semblaient les plus importants et les marqueurs de la vie d'avant, si on peut dire. Donc l'objet est très puissant. En plus, c'est assez mystérieux parce que la valise fermée, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. À vrai dire, le livre fermé, on ne sait pas non plus le texte qu'il y a dedans. Quant aux cages, c'est un autre contenant qui à la fois emprisonne, bien sûr, mais en même temps on voit au travers, c'est-à-dire que visuellement, parce que la peinture, la sculpture, l'installation, c'est d'abord dans le champ visuel que ça se développe. Et donc, visuellement, ça permet, si on met un entassement de petits référents à l'intérieur de la cage, de continuer d'avoir une relation finalement à ce qu'il y a dedans. Pardon. Donc bizarrement, la valise qui a l'air plus calme me semble plus terrible parce qu'on ne voit pas, et la cage qui est un lieu de d'enfermement, d'emprisonnement, oui, laisse quand même paraître le contenu. Donc là, ça fait un peu partie du même travail, bizarrement.
Oui, merci de cet éclairage.
Et alors, de nombreuses municipalités ont fait appel à vous pour honorer la mémoire des disparus. Ce genre de travail est-il totalement différent de votre quotidien artistique? Ou en est-il le prolongement naturel?
En fait, je peux pas me décentrer de ma peinture, c'est-à-dire je peux pas faire semblant que, mais aucun d'entre nous d'être quelqu'un d'autre que celui qu'on est. Et comme la peinture, c'est vraiment c'est des décennies de travail intérieur, je peux pas d'un seul coup passer à une autre peinture sous prétexte de telle ou telle commande. Donc en fait, par exemple, j'ai fait un monument à la mémoire des Justes de l'Indre, qui est à Châteauroux. Et j'ai Cathy parlait de valise, j'ai réutilisé en fait un grand bronze que j'avais fait autour d'une accumulation de valises, et ça me semblait finalement à la fois bien sûr rester tout à fait dans mon univers et correspondre de manière abstraite ou allusive, mais quand même très exactement à tous ces parcours, à toutes ces vies entassées qui peuvent ou non échapper au destin, selon effectivement la bienveillance ou non de quelques personnes. Donc y a cette sculpture, et en dessous, il y a la liste des Justes de l'Indre, qui sont au nombre de 70, je crois, et il se trouve que c'est le département qui a compté pendant la dernière guerre le plus de Justes.
Bien. Alors, comment dialoguez-vous avec les autres spécialistes de la mémoire, qui sont les historiens, les témoins, les philosophes, les sociologues, les psychanalystes? Pourriez-vous nous éclairer, mais alors vraiment très rapidement, sur le contenu de la table ronde qui a été organisée le dimanche 13 septembre en marge de votre exposition « Mémoire » au Centre européen du judaïsme?
Alors, ça a été pour moi un moment très important, très profond en fait. C'est-à-dire, on a eu le vernissage de l'expo et après, dans le même cadre, l'organisation par un mouvement qui s'appelle Chibolette, en fait, que dirige Michel Gad Volkovitch, qui est un collectif pratiquement des meilleurs psychanalystes, philosophes, juifs contemporains, avec vraiment de très belles signatures et des parcours très intéressants, des visions très profondes, et tout ça a dialogué de manière finalement interdisciplinaire, et ça suscite une sorte d'éclairage nouveau. J'entendais Volkovitch, donc, qui a organisé ça, dans un entretien, je crois qu'il y avait avec Marc-Alain Wachnin sur France Culture, expliquait que la réalité actuelle était tellement compliquée que pour la saisir, on était obligés les uns et les autres de sortir de son registre propre, évidemment de sa démarche propre a fortiori, et de dialoguer avec les autres choses, et de ces ponts, de ces diagonales, naissait une vision plus profonde, plus complète des choses, et ces colonnes vertébrales manquent un petit peu, je pense, dans le paysage culturel contemporain. C'est-à-dire, c'est un monde d'un seul coup qui a l'air un peu sans mémoire, sans référent, ce qu'on appelle la postmodernité, tout est équivalent à tout, donc ça venait un petit peu rétablir des choses autour de ça.
Donc d'où l'importance d'aller voir votre exposition, qui comporte combien d'œuvres? Une quarantaine?
Une quarantaine d'œuvres, c'est ça, oui. Et alors, donc, vous parliez de grand format, ça va effectivement de grand format, des choses beaucoup plus petites, des enfin toutes sortes de travaux, des bronzes, des toiles, des travaux sur papier, des installations, enfin.
Qui donne très envie de voyager par les temps qui courent malgré tout.
Oui,
pour nous autres qui sommes exilés.
C'est bien compliqué. Voilà. Oui, on a eu la chance compliqué. D'avoir beaucoup de monde, mais c'est émouvant de voir que les gens font l'effort dans des périodes où on se demande à chaque fois s'il faut ou non aller quelque part.
Bien, nous arrivons au terme de notre émission, cher Alain Kleinmann. Merci mille fois d'avoir répondu présent, une fois de plus. Et rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs, courez vers vos ordinateurs et autres outils informatiques afin de découvrir le site d'Alain Kleinmann. Nous publierons le lien, bien sûr, sur notre blog et nous espérons que nos auditeurs et nos auditrices, bon, j'aurais dû dire le contraire, mais bon, pourront prendre la mesure.
Non, c'est politiquement correct voilà. De ne pas faire de hiérarchie ni dans un sens ni dans l'autre.
Prendre la mesure de l'immense travail que vous avez accompli et que vous continuez d'accomplir et que vous offrez avec tant de générosité et tant d'humanité.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup.
Merci Cathy, merci Jacques.
Et à très bientôt.
C'est toujours une joie de dialoguer avec vous.
Merci.
À bientôt.
La Mèche d'âme sur RCN. Pérenniser la mémoire des enfants juifs déportés des Alpes-Maritimes. La Mèche d'âme avec Michel Merovka, Jacques Lefebvre-Linetsky et Cathy Fiedler. Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast.